Mon père, nous avons deux petites questions. On souhaiterait que vous nous dites un petit mot sur l'exaltation de la liberté, qui notamment est très présente chez des philosophes comme Jean-Paul Sartre, qui définit la personne ou l'être humain par la liberté, ou alors enfin, pose la négation comme fondement de la liberté. Et on voulait vous poser cette question: quelles sont les vraies libertés de la personne humaine? Comment faire croître l'autonomie personnelle avec un vrai sens de la liberté impliquant un engagement amical?
Bon, c'est la conception même de l'amour qui est en cause. Est-ce que la liberté remplace l'amour, ou est-ce que l'amour est antérieur à la liberté? Donc c'est un problème foncier. Toutes les idéologies depuis Descartes, ça fait 5 siècles, 6, sur le dos. Pour Descartes, l'amour n'est pas premier. La liberté est avant l'amour. Vous voyez, le dilemme est donc amour-liberté, puisque je le prends à la source. Je suis pour Sartre. Sartre, c'est une philosophie de conséquences. Sartre ne saisit aucun principe, c'est uniquement une philosophie de conséquences. Donc on peut en ajouter indéfiniment. Son livre a 666 pages. Il a voulu que son livre ait le chiffre de Lebesgue. Vous savez, les bonnes blagues qu'on raconte sur l'être et le néant, hein, j'ai vu l'être et le néant naître. Alors c'était bien prévu, et c'est un bon moment. C'était au moment où, comme toujours dans les guerres, on ramasse tous les poids en cuivre. Ça fait des canons. Alors, il n'y a plus de poids possible. On est obligé d'inventer des simili-poids. Alors, la bonne blague, elle est là-dessus. C'est que quelqu'un à Paris va acheter du pain chez le boulanger. Et puis il voit l'être et le néant sur la table du boulanger. Il ne dit rien. 15 jours après, j'ai le boulanger, un autre. Encore l'être et le néant. Pff. Il ne dit rien. Puis une troisième fois, l'être et le néant chez le boulanger. Alors, il dit, mais vous n'allez pas me dire quand même que vous lisez l'être et le néant. Mais non, il pèse 500 grammes. Il n'y a plus de poids. Alors, il y a l'être et le néant. C'était la bonne blague qui circulait à ce moment-là. 6, 6, 6, 500 grammes. Alors, comme il n'y avait pas de poids, on prenait les traîneurs. Et c'est vrai, L'être et le néant est à ce niveau-là. Il faut l'avoir lu. Depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu depuis le début jusqu'à la fin. Moi, je ne veux pas discuter sur Sartre sans que j'ai quelqu'un qui ait lu L'être et néant depuis le début jusqu'à la fin.
Ben, c'est très angoissant de le lire.
Tu l'as lu? Quoi? Oui, depuis le début jusqu'à la fin.
Pas comme vous avec un stylo.
Quoi?
Je ne l'ai pas lu comme vous avec un stylo.
Ah oui, donc vous l'avez lu rapidement, en faisant sauter les feuilles. Déjà vu. L'être et le néant. C'est plus le néant et l'être. C'est comme ça qu'il faudrait dire, pas l'être et le néant, mais le néant et l'être. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est la négation qui est première. Alors ça, c'est très vieux. Ça dépend du 4e siècle. Occam. Pour un grec, l'affirmation est première. La négation est seconde. Je vais au café, je pose la question, Pierre est-il là? On dit non. Ah bon? Alors pour Sartre, hein, la négation est première. Pierre n'est pas au café. Vous comprenez que c'est complètement à côté. C'est la question du lieu. Il n'est pas dans ce lieu. Mais ça ne touche pas Pierre. La substance de Pierre. Donc la négation au niveau accidentel passe avant tout. C'est ça la modernité. Personnellement, j'ai cherché pendant 30 ans sur quoi reposait la modernité. Et je peux dire maintenant que la modernité repose tout simplement sur le primat de la négation. La négation est avant l'être, avant l'affirmation. Alors, voyez tout de suite toutes les conséquences. C'est intéressant parce que, vous voyez, pour un grec, pour Aristote, c'est net. Hein. L'affirmation est première et la négation seconde. Le langage lui-même le montre. Oui, Pierre est là. Non. Pierre n'est pas là. Mais la négation, selon le langage, présuppose l'affirmation. Selon le langage. Or, le langage est le lieu par excellence où je saisis le petit pain tout frais. Et c'est net. Si la négation est première, la subjectivité devient première. Immédiatement. Parce que c'est dans la négation que la subjectivité est à l'état parfait. Non. Quand vous dites non, vous exaltez le sujet. L'objet est anéanti. Et vous exaltez le sujet. Alors, c'est l'exaltation progressive du sujet, de la personne. Il faut bien se rappeler ça. Pour nous, cherchons sur quoi repose la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être moderne? De comprendre des philosophies modernes. C'est ça qui a de caractéristiques. Bon. Alors, ça c'est capital. Ça me fait comprendre que l'amour est positif. J'aime. Quand vous aimez, quand vous dites j'aime, vous affirmez le prima de l'objet. J'aime quelqu'un. Je n'aime pas en l'air n'importe qui. J'aime quelqu'un. Et donc, l'amour est avant la liberté. Tout le dilemme est là-dessus. Tout le combat est là-dessus. Affirmation, négation. Affirmation de la négation. Je suis libre. J'aime. Si vous mettez le sujet avant l'objet, vous arrivez à affirmer je suis libre. Je suis libre avant d'aimer. Or, si vous réfléchissez, quand êtes-vous libre? Quand êtes-vous libre? Je réponds, quand vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas libre. Si vous aimez, vous êtes lié à votre fin et vous êtes libre par rapport aux moyens. J'ai fait la différence entre la finalité et les moyens. Et quand je fais la différence entre la finalité et les moyens, je fais tout de suite la différence entre l'amour et la liberté. La liberté, c'est une manière d'aimer. Je ne peux aimer vraiment que libre. Donc c'est très important. Ça qualifie l'amour. Mais ça qualifie l'amour. S'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de liberté. Alors, il faut remonter à Descartes. Qui met la liberté avant l'amour. Alors, le débat se fait au niveau amour-liberté. Qu'est-ce qui est premier pour vous? La liberté ou l'amour? C'est un grave problème. Hein. Est-ce que je cherche avant tout d'aimer ou est-ce que je cherche avant tout d'être libre? Ça fait deux spiritualités tout à fait différentes. La spiritualité de celui qui cherche avant tout la liberté, laisse-moi libre, on discutera après. Mais vous ne pouvez être libre que si vous aimez. Dans la mesure où vous aimez, dans cette même mesure, vous augmentez votre liberté. Je suis maître de ma liberté. Je ne suis pas maître de mon amour. C'est pour ça que j'aime tellement la liberté. C'est parce que je suis maître. Dans la liberté, le sujet apparaît comme au-dessus de l'objet. Alors, évidemment, c'est bien ça la modernité. Le sujet apparaît avant l'objet. Et je crois qu'il faut être très très net là-dessus. Comprendre que nous sommes sujets, nous subissons les erreurs de Descartes. Je me souviens, première fois que je suis arrivé à Lyon, j'étais dans un salon très respectable. Et je dis ça à Lyonnais, que vraiment Descartes a joué un sale tour en tant que Français. Alors, mais quand même, Descartes, c'est un philosophe, c'est les grands philosophes français. Oui, mais il vous met dans l'erreur. Non, Descartes, il croit en Dieu. Oui, mais pour Descartes, est-ce que l'amour est avant la liberté ou est-ce que la liberté est avant l'amour? Alors, à ce moment-là, il hésitait. Ah, je sais pas. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Vous n'avez jamais compris que pour Descartes, la liberté était antérieure à l'amour. Peu importe ce que vous aimez, mais il faut être libre. Mais libre. Comment suis-je libre? Vous voyez, la liberté regarde non pas la finalité, mais le comment. C'est la manière d'être. C'est le comment, c'est le pos. C'est pas la finalité. Donc on a vendu la liberté, on a vendu la finalité pour ne s'occuper que des moyens. Et celui qui met la liberté avant l'amour ne s'occupe que des moyens et ne sait plus ce que c'est qu'aimer. Oui, alors, il faut comprendre que le grand problème, c'est la finalité, puisque c'est à partir du bien que l'amour s'éveille. J'aime ce bien, cette personne. L'amour est donc premier. Et pour que l'amour soit ce qu'il doit être, il faut qu'il soit libre. Et l'amour qui s'exerce dans la liberté exprime parfaitement ce qu'est l'amour. Vous savez la fable de La Fontaine, hein ? Le chien qui a un collier. Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien, collier. Il aime avec un collier. Les hommes d'aujourd'hui aiment avec un collier. Tous les petits cartésiens. Ils aiment avec un collier. Et le collier est plus important que l'amour. Ça arrive, ça. Alors, il faut aller remonter à quelque chose de très important. Ma finalité, est-ce que je la découvre à partir de l'amour ou à partir de ma liberté ? C'est la grande question. la finalité, ce qui est ma fin, je le découvre à partir de l'amour. Si j'aime, je suis libre. Et plus j'aime, plus je suis libre. Et vous ne pouvez pas dire, plus je suis libre, plus j'aime. Ah non, ça ne va pas ça. Plus je suis libre, plus j'aime. Ma liberté, c'est une manière d'agir. J'agis en toute liberté. Donc c'est un pause. Ce n'est pas la finalité. La finalité a été perdue pour l'amitié, pour l'amour, pour la liberté, à cause de liberté. Alors, seconde question.
La deuxième question est un peu tout autre. Elle regarde les rapports entre personne et nature. Et on voudrait savoir jusqu'où, en tout cas la question porte là-dessus, jusqu'où peut-on transformer la nature? Il y a une application actuelle, d'actualité en tout cas. Aujourd'hui, il est médicalement possible de changer le corps d'un homme pour un corps de femme et inversement. Est-ce que cette transformation fondamentale change aussi leur personne? Est-ce vraiment possible pour un homme de devenir une femme et réciproquement? Plus profondément?
Alors, moi je leur répondrai, avez-vous fait l'expérience?
Ils répondront oui, par les médias.
Alors étudions exactement ce qu'ils disent.
Mais, père...
Vous voyez, ils ont mis la liberté avant l'amour. Toujours.
Vous pouvez un peu expliquer, là, pourquoi est-ce qu'ils ont... Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont...
La liberté, ça s'acquiert. L'amour a... Est-ce que ça s'acquiert? Mais je suis pour une philosophie de l'expérience. Donc, j'ai l'expérience d'aimer et de choisir qui j'aime. Et l'amour passe avant la liberté. Parce que la liberté, c'est moi. C'est pas mon ami. C'est moi. Je suis libre. Et l'amour, ah, c'est l'amour de l'autre. Hein? Alors, l'autre, je peux l'aimer. Moi, je peux m'aimer. Si j'aime moi-même avant l'autre, je mets la liberté avant l'amour. C'est donc toujours une question de priorité. Est-ce que l'amour est avant la liberté? Est-ce que la liberté est avant l'amour? Revenons toujours sur ce problème fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est cette découverte du bien, d'une personne belle, bonne. Pas belle, mais bonne. Il y a des personnes qui sont belles et que je n'aime pas. Elles sont terriblement suffisantes. Tandis que quand j'aime le bien, je suis attiré par une personne bonne. C'est par sa bonté. Il m'a dit. Elle m'attire. L'expérience même de l'amour. Et l'expérience de la liberté. Nous faisons tous les jours l'expérience de l'amour et de la liberté. Qu'est-ce que nous désirons ? L'amour ou la liberté ? Mais c'est trop profond pour que j'évite l'expérience. Quand je suis en face de quelque chose de tout à fait premier, seule l'expérience peut décider. Parce que ce n'est pas un moyen. L'amour n'est pas un moyen. L'amour finalise. L'amour est un absolu. J'aime. Je fais donc à l'expérience. Et je crois qu'il faut qu'on soit très catégorique là-dessus. Parce que fond, c'est tout le temps ça qui se présente, le dilemme entre l'amour et la liberté. Préférez-vous la liberté ? Préférez-vous l'amour ? Et ça, on peut le demander à n'importe qui. Moi, je donne, voyant quelqu'un qu'on m'avait dit, il est marxiste, vous allez avoir beaucoup de peine avec lui. Alors, j'ai demandé s'il était marié. On m'a dit oui. Il a des enfants ? Oui. Alors, je dis, on est sauvés. Et je lui ai posé la question. Est-ce que votre marxisme vous aide à aimer votre épouse ? Mais il n'est pas fait pour ça. Le marxisme n'est pas fait pour aider mon épouse. Ah, alors, aimer votre épouse, ça ne signifie rien du tout pour vous. Ah non, mais c'est personnel. C'est pas de la philosophie, ça, c'est personnel. Ah. Mais la philosophie, regarde ce qui est personnel, avant ce qui est naturel. Et tout est inversé. Les gens ne pensent plus. Alors il faut les faire penser. Et les faire penser à partir de l'expérience. Et s'ils pensent à partir de l'expérience, je suis trouvé l'autre jour comme ça, quelqu'un qui cherchait Dieu. Un intellectuel, un agrégé, qu'ancien. Elle lui dit, vous croyez pouvoir trouver Dieu au bout de votre philosophie ancienne ? Vous ne le trouverez jamais, parce que Dieu ne s'enferme pas dans la philosophie ancienne. Est-ce que vous aimez votre épouse ? Ah oui. Est-ce que vous aimez vos enfants ? Ah oui. Donc, Dieu existe. Alors, il m'a regardé d'un drôle d'air. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, l'amour existe. Alors, c'est d'où ça vient ? on ne peut atteindre Dieu que par l'amour. Saint Thomas le dit en toutes lettres, ça. Donc toutes les questions d'idéologie, tout ça, discuter indéfiniment, vous ne trouverez pas Dieu. C'est le primat de l'amour. C'est très très important ça pour nous. Donc, et la liberté vient après l'amour.
Mon père, il me semble que dans la question qui a été posée sur la transformation du corps, il y a quand même une interrogation profonde parce que le frère voudrait savoir plus profondément qu'est-ce qui fait le corps de l'homme et de la femme, qu'est-ce qui fait que le corps de l'homme et de la femme soit masculin ou féminin ? Est-ce la figura physique ou y a-t-il quelque chose de plus profond ?
Savoir la place du corps dans notre vie personnelle. Oui. Donc nous touchons là un nouveau problème. Il faut être très précis, on touche là un nouveau problème. Jusque maintenant, on était le problème de l'agir, l'intention, et le point de vue de se manifester. L'art, c'est se manifester. Il est évident que l'art existe dans notre vie en fonction de notre corps. En fonction de notre corps, il y a un problème nouveau, se manifester. C'est très important, ça. On veut fêter les 30 ans de la communauté. Comment fêter les 30 ans de la communauté ? Est-ce que la communauté est une personne ou la nature ? Il faut qu'elle se manifeste. Ah, attention. Est-ce que c'est votre finalité de se manifester ? J'avais pas pensé. Mais oui, l'art existe dans ma personne. C'est se manifester. Je me manifeste comme un clown. Je me manifeste comme un magistrat. Comme un juge. Je me manifeste comme un artiste. Je me manifeste comme un frère de Saint-Jean. Je me manifeste comme un père jésuite. Est-ce qu'un père jésuite se manifeste différemment qu'un frère de Saint-Jean ? Ah, vous n'avez pas posé la question. Il faut vous la poser. Il faut se manifester comme un frère de Saint-Jean. Ma personnalité de frère de Saint-Jean va jusque-là. Se manifester. Je ne me manifeste pas n'importe comment. J'ai cherché vraiment, quand il s'agit de la personne, comment intervient le point de vue artistique ? Le point de vue artistique intervient dans le se manifester. Une personne se manifeste. Un frère de Saint-Jean, personne, une personne, se manifeste. Et elle se manifeste, cette personne, dans ce caractère particulier. Frère de Saint-Jean. Bon, soyons intelligents jusqu'au bout. On fait de la philosophie. Si on fait de la philosophie, ça doit changer notre manière de nous manifester. Ah, j'avais pas pensé ça. Oui, oui, oui. un philosophe se manifeste autrement qu'un apôtre. Un philosophe se manifeste autrement qu'un théologien. Et un théologien se manifeste autrement qu'un saint. Se manifester, c'est ça le point de vue artistique dans notre vie. Et ce point de vue artistique est premier par rapport à notre personne, par rapport à notre corps. Notre corps réclame de nous la manifestation. Je peux faire n'importe quoi, mon corps m'oblige de me manifester. C'est à cause du corps, 30 ans. C'est pas à cause de l'âme. Mon âme, elle n'a pas 30 ans. C'est le corps qui a 30 ans. Je me manifeste autrement qu'à l'âge de 8 ans. Un enfant, se manifeste à 5 ans. C'est très curieux de voir la manière dont un enfant se manifeste à 5 ans. Il y a le père de famille ou la mère de famille qui présente les enfants. Et le père de famille manifeste tous les enfants. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Ils sont exactement dans la même manifestation. Et ils rugissent, parce qu'ils se manifestent très différemment quand ils jouent. Et donc ils ne sont pas vrais. Se manifester dans l'Église, puisque nous sommes dans l'Église. Est-ce que se manifeste comme un père jésuite ? Vous n'avez pas cherché de comprendre comment un frère de Saint-Jean se manifeste ? C'est une question que je vous pose. Et ça fait partie de ma philosophie. Comment un frère de Saint-Jean se manifeste ? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que la manifestation personnelle va jusque-là ? C'est très important et très intéressant. Alors, il faut se poser la question comme ça. Ceux qui sont désignés pour s'occuper de ça, posez-leur cette question. Ah, tu as réfléchi sur la manière dont on doit se manifester. Ah tiens, alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a un caractère propre à Saint-Jean ?
Père, comment est-ce qu'on peut manifester les trois sagesses ?
Ah oui, justement. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'il se manifeste ou est-ce qu'il ne se manifeste pas ?
Ce qui n'est pas facile à voir, c'est... parce qu'on parle du corps. On voit évidemment dans une analyse que les trois sagesses touchent le corps et que ça assume le corps. Mais comment est-ce que je peux manifester de façon qualitative ces trois sagesses ?
La dimension artistique. La dimension artistique, c'est le « c'est manifester ». Un petit oiseau se manifeste. un lion se manifeste. Tous les animaux se manifestent par leur corps. L'homme, est-ce qu'il se manifeste par son corps ? Ô triste animal ! Il se manifeste par son intelligence. C'est ça qui est intéressant. C'est la forme particulière d'intelligence à Saint-Jean. Et par le fait même, cette forme d'intelligence particulière se manifeste d'une façon spéciale. Pas n'importe comment. Je peux évidemment montrer la manifestation particulière d'un novice de Saint-Jean. Il a maigri de 10 kilos à son noviciat. C'est pas si mal, hein? Et il se manifeste, 10 kilos de moins. Il a commencé ses études et il s'intéresse à la recherche de la vérité. Ah, comment se manifeste la recherche de la vérité? Tiens. C'est le point de vue de l'art. Et le point de vue de l'art est présent dans la personne. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on se présente. On nous oblige de nous présenter. Vous ne vous connaissez pas assez. Voyez, c'est une fameuse discussion entre Jésus et les disciples du Christ. Les disciples du Christ disent, tu ne te manifestes pas assez. Tu devrais te manifester. Si tu te manifestes, forcément on croit en toi. Si tu ne te manifestes pas, on ne croit pas en toi. Mais il y a une discussion. Ça existe au cœur des apôtres. Et avec Jésus. Donc c'est un problème. Ne pas poser ce problème, ben c'était une erreur. On existe, et on existe d'une manière spéciale. Notre habit fait partie de notre manifestation. Notre vie fait partie de notre manifestation. Au cœur, on se manifeste. À la messe, on se manifeste. Au réfectoire, on se manifeste. On dit, oh, comme ils sont gourmands. Ça se voit tout de suite. Se manifester. Il y a l'occasion pour nous de réfléchir là-dessus. Au point de vue philosophique, on n'a pas fait beaucoup de réflexions là-dessus. Se manifester dans le monde d'aujourd'hui, nous nous manifestons pour l'Église, nous nous manifestons pour le monde. On se manifeste différemment pour l'Église, on se manifeste directement. Différemment pour le monde. Une contemplative se manifeste autrement qu'une sœur apostolique. C'est là la différence. Elle se manifeste autrement. Quand une contemplative veut se manifester comme une sœur apostolique, elle quitte sa vie contemplative. Ah. La manifestation de l'apôtre n'est pas la même que la manifestation du travailleur. C'est un problème très important, ça, parce qu'on a commis, Voilà ce qu'on fait. Première chose, il y a un anniversaire. Nommons une commission qui va s'occuper de ça. Voilà la première chose. Vous voyez, comme on est matériel. Nous, la première chose, c'est comment un frère de Saint-Jean se manifeste, à la différence d'un père jésuite, à la différence d'un trappiste, à la différence d'un frère purement contemplatif, à la différence d'un apôtre, un père blanc. Il se manifeste. La manière dont un petit foyer chrétien se manifeste. Qualité. Vous voyez, j'ai cherché beaucoup. À quel moment l'aspect artistique intervient dans le point de vue personne. Et après avoir beaucoup réfléchi, je dis, c'est se manifester. Il y a des revues militaires, on se manifeste. Il y a des revues pour le moine. Pour l'apôtre. Réfléchissez sur la manière dont un frère de Saint-Jean se manifeste. Ou ne se manifeste pas. Jésus, à 12 ans, s'est manifesté au temple. Il ne s'est pas manifesté avant. Un frère de Saint-Jean est resté dans l'ombre jusque 30 ans. Est-ce qu'il doit se manifester au bout de 30 ans? Ou tout simplement dire, nous sommes encore trop jeunes pour nous manifester parce que nous sommes dans la croissance. Ah. Et parce que nous sommes dans la croissance, la manière de se manifester se modifie tout le temps. C'est légitime. Alors là, ça devient intelligent, donc personnel. Tant que ce n'était pas intelligent, ce n'était pas personnel. La commune de Saint-Jean n'avait pas encore de caractère personnel. Elle était naturelle. Tiens. Alors, ensuite, je me pose la question, quelle est la place du corps dans le point de vue personnel? Et par le fait même, la place du corps masculin, féminin, dans le point de vue de la communauté.